pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Faut-il réduire le nombre de fonctionnaires en France? Et pour quelles raisons? Y a-t-il trop de policiers, d'instituteurs, d'infirmières? Et si ce ne sont pas eux qui sont en trop, où faut-il en supprimer? Y a-t-il des gens dont le travail est véritablement inutile? Et si oui, combien? De combien d'agents de l'État faudrait-il se débarrasser pour que notre pays aille mieux, pour que les pauvres le soient moins, qu'il y ait des richesses mieux réparties, des logements pour tous, ce que tout le monde souhaite sans aucun doute. François Fillon, par exemple, estime que ce sont 500 000 postes qu'il faut supprimer en 5 ans. Emmanuel Macron lui dit 120 000 en 5 ans aussi. Ils ne disent pas pourquoi ces chiffres exactement, ni qui. Macron précise simplement 50 000 parmi les fonctionnaires de l'État et 70 000 parmi les agents territoriaux. Les agents territoriaux, je le précise, ce sont par exemple les bibliothécaires, les personnes qui aident les maîtres et les maîtresses dans les maternelles, les puéricultrices dans les crèches, les auxiliaires de vie pour les personnes âgées, etc. Marine Le Pen, elle, ne donne pas de chiffres précis, mais veut lutter contre le système qui permet l'absentéisme des agents, enfin, disons, en gros, les arrêts maladie. Jean-Luc Mélenchon entend dans son programme revaloriser, lui, les salaires des fonctionnaires et les augmenter de 28%. Enfin, Benoît Hamon a ironisé sur la proposition d'Emmanuel Macron en disant « quelle originalité, quelle audace » et en ajoutant que la suppression de fonctionnaires est une tradition politique qui a échoué. C'est pour réfléchir à toutes ces questions, notamment en période électorale, que nous vous proposons chaque semaine Place de la République, une immersion dans trois institutions de la République, trois lieux bourrés d'agents de l'État et d'agents territoriaux qui travaillent pour le bien commun, l'éducation, la santé, la justice. Qui sont ces fonctionnaires? À quoi servent-ils? Y en a-t-il trop? Que vivent-ils? Au lycée Fourier à Auxerre, à l'hôpital de Die dans la Drôme et au tribunal de grande instance de Marseille, c'est un reportage de Pauline Mocor, Pascal Pascariello et Olivier Minot, réalisé par Cécile Lafont jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture. France Culture, Les Pieds sur Terre.
J'aime pas les profs, j'aime pas certains profs et du coup ça me démotive. Parce qu'ils me gueulent dessus.
Le cœur est à plus de 60. Je vais vérifier si je respire seul. Si tu veux, là ça se trouve, allez bien.
Taisez-vous. Vous êtes odieux et en plus vous faites semblant de vous excuser. Alors taisez-vous.
Eh bien, tu vas nous manquer. J'allais te dire, la maternité va perdre quelqu'un de bien, mais en même temps, si elle ferme, ben.
Longue vie à la maternité, a dit.
Lycée Fourier, bonjour.
Ouais, parce qu'il a quand même crié en cours. C'est pas rien. Ouais, non mais je suis d'accord avec vous. Mais je vais le coller, je m'en occupe tout de suite, d'accord? Ouais, c'est normal, punissez-le. Nous aussi, on va le punir. Ouais, non mais je suis d'accord avec vous. De rien, bonne journée, madame. Au revoir. Un élève qui sèche les cours puisqu'il y a une sortie au ski et il estime qu'il n'a pas à venir puisque les autres ne viennent pas. Alors que c'est pas vrai, c'est de sa classe, ils sont là.
Le souci, c'est qu'on va le coller, mais il est déjà collé tous les vendredis
ouais,
de janvier.
C'est vendredi. Et ben on va le coller le 3 février.
Bah, je te laisse voir ça, je reçois M. Gale.
Ouais, je fais la fiche.
Ta capuche, s'il te plaît. On range les portables, s'il vous plaît.
Ça, c'est pareil, on peut le répéter. 15 fois, 30 fois par jour. Les téléphones, les portables, les casquettes. Alors ça devient un petit jeu, en fait. Bonjour. Bonjour. Donc je suis Élise Stopeneau, je suis conseillère d'éducation au lycée Fourier depuis 11 ans et CPE depuis 13 ans. En fait, ce qui est difficile dans ce métier, c'est qu'on a l'impression de toujours répéter les choses et de se dire, mais pff, ça n'a pas d'effet, quoi. Mais en fait, ça n'a pas d'effet immédiat. Donc effectivement, si on attend un résultat comme ça du jour au lendemain, je veux dire, un gamin qui aime pas l'école, du jour au lendemain, il va pas venir à l'école tous les jours et être super assidu et intéressé. Mais l'enjeu, c'est de travailler avec lui, d'essayer de voir avec lui ce qui pourrait l'intéresser. Puis tout est lié finalement, parce que un gamin qui va trouver sa place alors à l'école ou en tout cas dans sa formation, bah, il va forcément trouver sa place aussi dans sa vie. Tout est lié et c'est ça qu'on essaye de leur faire comprendre aussi, l'importance de l'école. Et puis après, je pense qu'il faut aussi que nous, on soit même d'entendre
qu'ils aiment pas l'école. C'est quand même particulier, quoi. Donc moi, ce que je leur dis, t'as le droit de pas aimer ce que tu fais. Par contre, t'es dans l'obligation maintenant, avec nous, de trouver une solution pour te construire ton parcours à toi. Et surtout, on veut absolument qu'ils viennent à l'école pour le côté aussi garder du lien, s'habituer à se lever le matin, à échanger avec les autres. Voilà. Ce qui est le pire pour nous, c'est quand on voit des gamins comme ça se déscolariser, rester à la maison, être complètement décalé. Là, c'est beaucoup plus difficile de rattraper la situation. Alors là, tiens, Fournier Maxence. Alors ça, c'est les billets d'absence que nous ramènent les élèves, hein, signés par les parents avec les motifs. Voilà, donc Maxence n'avait qu'une heure de cours. Donc une heure de cours, on ne vient pas à l'école. Logique. Panne de réveil, louper le bus, mon personnel, ça je sais, vomissement, malade. Hier, on a eu un règle douloureuse avec Julien, ça faisait longtemps. C'est vrai que moi, je suis assez frappée par le nombre d'élèves qui sont dans des situations individuelles ou personnelles compliquées quand même. Des gamins qui ont une vie d'ado, on va dire normale, avec des préoccupations d'ado, moi je trouve que finalement, il n'y en a pas tant que ça. Ils sont quand même déjà très tôt empêtrés dans des histoires, en tout cas dans des réalités. Donc ils perdent un peu leur insouciance. Moi je fais partie de la commission fonds social du lycée. Et on étudie de manière anonyme des dossiers que les familles remplissent, parce que financièrement c'est compliqué. Donc c'est pour des gens qui sont boursiers ou pas. Parce qu'on a quand même aussi toute une partie de la population. Les deux parents travaillent avec des petits salaires, deux SMIC par exemple, deux ou trois enfants. Il n'y a pas d'aide particulière, ce n'est pas des gens qui ont droit à des bourses. Et pourtant, quand il y a deux ou trois notes de cantine à payer, c'est très compliqué. Et il y a un signe aussi qui est très important, c'est qu'on remarque depuis 2-3 ans une baisse de fréquentation de la cantine. Les gens, les jeunes qui ne mangent plus à la cantine, on les retrouve le midi sur les parkings de Carrefour Market et de Leader Price et ils mangent un sandwich. On a quand même des préoccupations comme ça d'ordre matériel qui font ruminer les gamins, quoi. Par contre, là où je suis plutôt contente, c'est qu'ils se sentent concernés. Ils n'ont pas envie de subir. Et quel que soit leur choix, je pense qu'ils sont allés chercher leur carte d'électeur, qu'ils sont allés s'inscrire sur les listes électorales et qu'ils ont envie d'aller voter. Je crois que, moi, ce que je ressens, c'est qu'ils n'ont pas envie qu'on choisisse à leur place. Alors après, quelle va être la teneur de leur vote, j'en sais rien. On sent le poids du discours familial aussi, notamment sur le Front National. Parce que il y a des raccourcis extrêmement simplistes qu'on voit apparaître, comme c'est pas normal que des étrangers aient droit à des allocations alors que moi je galère, etc. Enfin, voilà, ça c'est des discours qu'on peut entendre.
Bonjour, monsieur, dis-moi, racheter un carnet.
Ah, ben dis donc.
Les garçons, c'est pourquoi?
Bravo, sans motif.
Oui, mais c'est parce que je m'en souviens plus du tout de. Ouais, oui, depuis le temps, je pense plus.
Oui, bah oui. Enfin, même quand ça date de jeudi, tu sais plus, donc.
Si, jeudi, c'était mon CCF, madame.
Bah, donc t'étais pas absent si t'étais en CCF.
Oui, mais vous me demandez un billet, j'ai été noté absent parce
non,
que j'étais.
Non, je t'ai dit.
Ce que je veux dire, j'étais pas au cours de monsieur Luc, j'étais au cours CCF de monsieur Bas.
Si
c'est pour
tu
ça.
Me donnes un mot de monsieur Bas, je vais pas te mettre absent si t'étais
donc
avec monsieur Bas.
On la compte pas du coup.
Bah, on la compte pas. J'attends d'avoir un mot de monsieur Bas.
Bah, je vais vous la laisser, je vous ramènerai un mot tout à l'heure.
Voilà, on va faire comme ça.
Du coup, c'est le.
À 10h, peut-être.
Hôpital de Dieu, bonjour.
Pour aller en médecine, prendre l'ascenseur juste derrière c'est vous celui-là. Et c'est au premier étage, sur votre gauche.
Je vous prends un coup d'attention là. D'accord ? Allez hop, pas de douleur ?
Non.
J'ai les mains froides. Hein. Vous avez vu les glaçons que je vous pose sur le bras ? Voilà. 10, 5.
Bon, fais-moi les.
Bon, allez, je pousse la porte et je reviens. À Attention que je vous écrase pas. Hein.
Donc, je peux vous poser une question. Oui, bien sûr. Je voudrais savoir qui c'est qui m'a amené ici.
Qui c'est qui vous a amené ici? C'est votre fille qui vous a amené ici.
Ah, et pour quelle raison?
Parce que vous aviez mal à la hanche.
Oui, j'ai compris.
Qu'est-ce que vous avez compris? Vous êtes contrarié?
Oui.
Pourquoi?
Vraiment contrarié.
Pourquoi? Dites-moi. On va aller dans la chambre, ne pleurez pas. Hein. Allez.
Ça va être l'heure de la collation. On va discuter. D'accord? Je vais vous demander pourquoi je suis là.
Je vous ai expliqué, c'est parce que vous aviez mal à votre hanche. Donc elle voulait qu'on équilibre le traitement contre la douleur. D'accord?
Elle a voulu se débarrasser de moi du tout. Vous voyez comment je suis débrouillée.
Là, vous êtes à l'hôpital, vous n'êtes pas dans une maison. Elle ne vous a pas mis dans une maison. Ok? Je vous laisse vous reposer 2 minutes et puis je reviendrai pour vous prendre la tension. D'accord? Puis on discutera. Excuse-moi de te déranger. Dis la dame qui est rentrée, je vois sur Internet, il n'y a aucune prescription de traitement. D'accord, bah, tu vois, je suis pressée. Salut Christina. Bon, ben, cet après-midi, il va y avoir du travail. Transfusion. Et puis, ils ont annoncé une dame qui est arrivée, grippe confirmée. La grippe arrive. Revient plutôt.
La sous-préfet, apparemment, me dit ne veut pas que la matière elle ferme. Hop, c'est reparti pour 5 ans. Et comme ça, c'est bon pour nous.
Parce que Sabrina, elle est en CDD et son contrat finit le 11 avril.
18 avril.
Si la mater ferme, il va y avoir des gens à recaser.
Les titulaires à recaser, automatiquement, les contractuels qui sautent.
C'est du flan, ce qu'ils nous disent tous. Hein. C'est déjà tout programmé à l'avance. J'étais à la droite, je passe à la gauche. Maintenant, je me pose des questions. Parce qu'ils n'ont rien fait, ni l'un ni l'autre. Mais j'ai changé de bord.
J'étais de gauche avant. Plus maintenant. Mais dernière élection, j'ai voté de droite. Voilà. Et même au premier tour, je vais me dire, hein, j'ai même voté d'extrême droite.
Vous voyez nos retraités, les salaires qu'ils ont, les retraités, 800 euros, 600 euros par mois, c'est hallucinant. Moi, j'ai vu des personnes âgées qui n'avaient même pas acheté un steak haché pour dans la semaine. C'est anormal. Et après, on dit qu'on est une démocratie en France. Moi, j'ai rien contre les immigrés, mais ils arrivent, ils ont déjà un salaire. Et sur Internet, on tape et ils nous disent ce qui touchait les gens qui arrivaient.
Ils gagnent plus que toi qui te lève tous les matins et qui va travailler. Toi, le jour où tu as un souci financier, je suis pas raciste, hein, mais des choses moi qui me tuent et que je trouve ça m'horripile. Nous, en tant que Français, on vient, on est là, on se lève tous les matins, on va travailler, on fait notre journée, on a un souci financier. On nous dit, mais madame, monsieur, vous touchez trop. Ben, excusez-moi, je vais être immigré, je vais venir en France, j'aurai plein d'aide. Et à la sortie, on va me donner un SMIC, et ça va être tout bénef, ça va être de l'argent de poche. C'est honteux.
C'est mieux de donner dans leur pays, les aider dans leur pays, qui restent dans leur pays, je ne suis pas raciste, loin de là, développer leur croissance chez eux, que les faire venir en France, qui manquent déjà du boulot. Non?
Je pense que c'est un raccourci et que je ne pense pas spécialement ça. Voilà, on discute, on n'est pas d'accord entre nous, mais ça n'a aucune importance en fait, on est là pour travailler. Et Sabrina est arrivée il n'y a pas longtemps, mais on a eu des épreuves ensemble qui nous ont liés. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
On était tous les trois d'ailleurs.
Tous les trois, oui.
En fait, on a eu une jeune dont je m'occupais depuis très longtemps, en chimio, 30 ans, un cancer. Parce que ça faisait des semaines qu'elle était dans le service. Donc j'avais passé la matinée avec elle, on avait beaucoup discuté. Elle m'a raconté plein de choses, parce qu'elle sentait bien qu'elle n'allait pas bien du tout. Et puis ce jour-là, je partais en vacances le soir. Et j'avais un fond de culpabilité, presque de partir en vacances, de la laisser. Et puis, à 8h du soir, on était tous les trois, là, on était en train de faire la relève avec la collègue de nuit.
Puis j'aurais dit, bon, allez, ça y est, c'est les vacances, je m'en vais. Puis j'ai dit, mais je vais dire au revoir à notre patiente.
On t'a suivi.
J'ai ouvert la porte et je suis rentrée dans la chambre. Elle m'a dit, oh, je vais pas bien. Je me suis approchée d'elle, elle m'a dit, je vais mourir. Et puis en fait, elle a fait un arrêt cardiaque. Donc ça a été extrêmement éprouvant. Parce qu'une jeune de 30 ans qui vous meurt dans les bras, mais... Donc voilà. Et donc après, on était tous très très mal. On était vraiment affectés. Et je pense que quand même, entre nous, ça, je sais pas, il y a eu quelque chose. On a vraiment partagé une épreuve.
Enfin, depuis, tu vois, enfin, depuis cet événement, je trouvais qu'on était plus soudés, en fait.
Ah, on se connaît, hein. Dans nos regards, c'est ce qu'il faut faire.
Ouais. Tu vois, ce que je disais tout à l'heure, on est capable de bien s'entendre pour le bien commun. Ce que ne font pas nos politiques, on en revient toujours à la même problématique.
Je peux vous prendre attention?
Oui, bien sûr.
J'ai les mains froides, hein, je vous avertis. Hein. Attention, remontez la manche, vous. Je vous fais travailler. Allez, moi je ne vais pas pouvoir mettre le brassard. Vous avez trop travaillé?
Ah, elle était souffleuse de verre.
Souffleuse de verre, elle était.
Puis là, on rigolait bien en tant que copine. C'est bon?
C'est bon, c'est parfait. Vous avez 11 et demi. Que demande le peuple?
La santé et continuer.
Ben voilà. Alors, je reviens vous voir dans un petit moment.
D'accord.
D'accord. Allez, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Ça va déjà mieux. Je fais pas de grand-chose, des fois.
Bon, allez, je marque ça. Attention, je vais aller chercher le sang parce qu'il faut que je prévienne le médecin aussi. Il est chier, on va dire que le sang est prêt. Allô?
Salut.
C'est pas vrai. D'accord. D'accord, je lui dis. Il faut que tu ailles délivrer Pascal.
Pourquoi?
Parce qu'elle est enfermée. On a la porte du balcon qui est défectueuse. Elles ont dû aller dehors et elles ne peuvent plus rentrer dans l'hôpital. Mon Dieu, à mourir de rire. Bon, allez, qu'est-ce qu'on se marre ici? France Culture, les pieds sur terre.
Veuillez vous lever, s'il vous plaît, le tribunal.
Alors, nous arrivons dans les halls du palais de justice de Marseille. Moi, je suis Edjazi Nasser, donc je suis enquêteur à l'APCARS. Voilà, donc une association socio-judiciaire. Et j'y travaille depuis 1997. Donc, on va rencontrer les personnes qui ont été déférées ce jour, dans le cadre de la comparution immédiate notamment. Et donc, ce matin, nous allons rencontrer une personne qui est déjà incarcérée et qui vraisemblablement va être poursuivie pour des faits commis au cours de sa détention. Et donc, je vais le rencontrer pour faire un point avec lui sur sa situation en vue de sa comparution cet après-midi. Alors aujourd'hui, si je comprends bien, parce que c'est important qu'on clarifie la situation, vous avez le statut de condamné et de prévenu.
Condamné, prévenu, voilà. Je suis les deux.
Et donc, vous êtes sous mandat de dépôt dans le cadre de cette affaire. D'accord, alors qu'est-ce que vous avez fait?
Voilà, moi, j'avais du stupéfiant. Ouais. Voilà, j'avais des grosses quantités un peu.
En détention?
Oui, en détention. J'avais 100 grammes, là, 400 grammes.
D'accord, d'accord.
Ouais, c'est... Moi, c'est pour ça, là, je passe que pour des faits. De toute façon, c'est toujours les mêmes faits, stup.
Ouais. Alors, vous avez 24 ans, hein. Qu'est-ce qui a favorisé votre entrée dans cette forme de délinquance, dans les stupes notamment?
Comment vous dire, la vie elle est dure de nos jours. Voilà, c'était le seul moyen qu'on avait pour faire un peu d'argent, etc. Tout. Parce qu'on a cherché du travail, tout ça et tout, mais on a vu qu'il n'y avait rien pour nous. Et rien. Voilà, des demandes pour l'emploi, la commission locale, tout ça, il n'y avait rien.
Le fait que vos démarches ne se concrétisent pas, ça vous a découragé?
Oui, c'est ça, ça a pas pris un truc comme ça.
Donc, le premier réflexe, c'est quand on est découragé, c'est qu'on va mettre des pieds dans les trafics de stupes.
Ouais, mais c'est On ne met pas les pieds dans les trafics de stupes. C'est les trafics de stupes mettent les pieds où on est, nous, des fois. C'est... On ne va pas déménager pour le trafic.
C'est les trafics de stupes qui viennent s'installer sur votre lieu de vie.
Voilà, sont dans nos lieux de vie, dans nos immeubles. Voilà, voilà.
Et vous faites. Vous
on vit avec ça, on arrive à mettre les mains dans ça, on vit de ça d'un coup. Tout le monde vit de ces sous-là dans chaque quartier de Marseille. Et j'ai une enfance un peu difficile, un peu. Voilà.
Ça veut dire que c'est pas la première fois que vous rentrez en prison, Maurice ?
C'est la septième fois.
Donc vous avez été incarcéré mineur ?
Oui, mineur.
D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vos conditions de détention, Andris ?
Conditions de détention, c'est pas une situation, c'est pas une prison. C'est voilà, c'est les escaliers sont écroulés, c'est, je sais pas, t'es la brèche.
C'est dur de se battre en détention. Hein.
Se battre comment ? Avec.
Quand je dis se battre, faire valoir ses droits, c'est-à-dire demander l'amélioration de vos conditions de détention, c'est
quoi ? Même pour jeter la poubelle, c'est dur. Il faut se prendre la tête avec le surveillant, il te dit oui à toi, il dit non à côté.
Qu'est-ce que vous faites ? Comment vous organisez vos journées ?
On fait rien, le seul mouvement qu'on a, c'est la douche et la promenade. On a rien de spécial.
Et comment on se projette dans la vie ?
Le but, c'est de réussir. Hein.
Alors, c'est quoi pour vous réussir ?
Faire le maximum d'argent, mettre de côté, de partir le plus loin possible.
Alors, quand vous dites faire le maximum d'argent, j'imagine que c'est d'un côté, d'un point de vue légal.
Ouais, légal et voilà. Genre, l'argent n'a pas d'odeur. Il y en a qui disent qu'ils ont une odeur, elle n'a pas d'odeur.
C'est possible, ça, pour vous, de gagner honnêtement votre vie ?
Eh oui, c'est possible, comme tout le monde. Il y a tout qui est possible.
Pourquoi vous n'avez pas choisi cette voie alors ?
Je sais pas, ils sont pleins qu'il faut chercher, faire des CV.
Ouais.
Voilà. Maintenant.
C'est contraignant pour vous tout ça ?
Ils ont vu le profil qu'on a, peut-être, ils ne veulent pas nous prendre les gens.
Alors, vous parlez plutôt des employeurs ?
Les employeurs, peut-être le passé, peut-être ils voient qu'on a été incarcéré, peut-être la mission locale, ils voient la personne qu'on est, ils étudient le dossier, pour eux, on n'est pas des criminels, mais genre, on est des crapules, voilà, pas plus, pas moins. Genre, voilà.
Au-delà du gain, au-delà de l'argent, vous n'avez pas l'impression de prendre d'autres risques dans les trafics de stup ?
Ah, Marc, c'est un choix de vie, c'est comme ça, c'est comme ça.
Quand vous voyez ce nombre de personnes décédées, ces règlements de compte, sous fond de stup ou pas, ça vous fait pas réfléchir, ça ?
Ouais, ça fait réfléchir et tout, ça fait marcher un peu plus le cerveau pour nous et tout. Voilà, c'est pas pour rien qu'ils meurent, les gens. C'est pour toujours pour quelque chose et voilà.
Pour l'argent.
Pour l'argent et pas que l'argent.
Alors que vous dites, moi je veux faire de l'argent pour vivre. Alors, là, ce qu'on comprend, c'est que vous faites de l'argent presque peut-être pour mourir.
C'est pas l'argent qui fait mourir les gens. C'est les gens sont devenus fous plutôt.
À cause de l'argent ?
À cause de l'argent, à cause qu'ils sont rentrés en prison, ils ont perdu beaucoup d'années, et qu'ils sont dehors, ils veulent se réinsérer, il n'y a rien vraiment pour eux.
Quand vous allez sortir de détention, vous allez aller où ?
Je vais sortir, je vais rester vers chez moi, je vais partir.
Chez vous, c'est où ? C'est à Marseille, vers chez vous ?
À Marseille, au quartier sud.
Et après ?
Après de là, je vais prendre ma vie en main.
Alors ça veut dire quoi ?
Passer mon permis.
Ouais.
Voilà, après chercher du travail.
Ouais.
Après, voilà, on fait ce qu'on doit faire après.
Donc vous avez quand même des petits projets ?
Oui, j'ai des projets.
Est-ce que vous allez pouvoir tenir dans la longueur ?
Comment dans la longueur d'or, dans la durée ?
Ouais.
Eh oui, je vais faire mon maximum.
Il y a du mental là-dedans ?
Eh oui, il y a du mental et tout, mais voilà, avant je faisais pas marcher le cerveau.
Donc vous allez passer à partir de 14h en comparution immédiate. Après à vous de décider si vous faites juger aujourd'hui ou pas. De toute façon, vous avez le droit de demander un délai, on ne peut pas vous le refuser. D'accord ? Moi, je vous conseillerais quand même de voir l'avocat de permanence.
Il est venu là, je lui ai dit non, je veux pas, mais à moyen là que c'est possible.
Pourquoi ?
Elle ne sert à rien qu'ils me mettent dedans.
Mais ça, vous ne pensez pas que c'est une forme de représentation que vous avez tous dans la tête ? L'avocat commis d'office, il ne sert à rien. Non, l'avocat commis d'office, il ne sert pas à rien.
Non, mais d'accord, même à la barre, on va dire je rentre, il est là pour me défendre. Il n'est pas là pour m'envoyer en prison, l'avocat.
Il est là pour vous défendre. Il n'est pas là pour vous sauver.
Mais voilà, il y a une façon de juger les gens, de mettre les peines. Il y a des gens qui prennent des grosses peines pour des petits trucs, des gens pour des gros trucs qui prennent des petites peines. C'est le monde à l'envers. Des gens qui ont fait des trucs de fou, ils sortent au bout de 2 ans. Des gens qui sont rentrés pour stup, ils ont vendu 2 barrettes, ils sont là pour 6 ans. Et ils sortent pas, parce que tout ce qui est sub, tu sors pas.
Je connais pas.
À l'envers. J'ai demandé 10 fois dans ma vie le bracelet. Moi, jamais accepté un bracelet, ni une semi, ni. Ils m'ont tout refusé dans ma vie. Moi, là, jamais laissé une chance, depuis que je suis petit. Moi. Il n'y a pas une fois, je sais pas quoi. J'ai plus fait d'années en prison que dehors. Depuis que je suis majeur et mineur, j'ai fait un peu vite fait dehors.
Mais quand on rentre en prison mineur à 15 ans, par rapport à ce que vous avez dit, est-ce que la toute première fois, quand vous avez posé votre acte de délinquance, vous avez été en prison la toute première fois? On vous a jamais rappelé à l'ordre? On vous a jamais mis une peine de sursis? Donc vous les avez eu les alertes en amont? Donc vous n'avez pas été directement en prison la première fois que vous avez fait une connerie?
Il y a des conneries simples, il y a des conneries parce aussi, ils sont simples, mais ils ne méritent pas la prison. Si j'aurais une autre personne, elle aurait pris 2 mois, moi j'aurais pris 2 ans. C'est ça le problème. C'est ce qu'on a la justice. C'est ça.
Alors pour conclure un peu cet entretien qui était très intéressant, donc là vous n'avez pas de date de sortie?
Ma date prévue, je pense qu'elle va être en 2023.
Pourquoi? Vous pensez que vous allez passer les 6 années?
Oui, j'ai des affaires en cours. J'ai des affaires que, voilà, ils vont me racheter 3 ans sûr, ça c'est sûr et certain.
Est-ce que vous avez des questions à me poser par rapport à l'audience cet après-midi?
J'espère que ça va bien se passer, que voilà, ils vont pas me rajouter, que tout se passera bien.
Alors faites en sorte que ça se passe bien, parce que c'est entre vos mains aussi.
Ouais, moi je vais essayer de parler normalement et tout, mais devant les juges, genre, mon caractère il change. Là, je suis pas comme si quand je parle devant vous et tout. Genre, j'arrive pas à parler avec eux en vrai. Quand je vois la juge et tout, je vois comme si quelqu'un qui a voulu mettre une balle dans la tête. Ouais. C'est la même chose. Je vais passer, je vais me faire juger.
Moi, mon travail c'est de vous dire, prenez un avocat et je vais vous donner un conseil. D'accord. Même si vous parlez beaucoup entre vous des affaires, des dossiers, des condamnations, des jugements, ne faites pas de comparaison. Parce que ça vous pollue à l'intérieur de votre tête. Ça vous pollue. Merci beaucoup.
De rien. Vous pouvez aller ?
Et bon courage.
Ouais, merci.
When your day in clothes and your afternoon goes so and you step outside the raindrops collide, and your dog slips out, and you shake the cobwebs free. Is there more to this breath that you are taking?
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, Place de la République, 11e épisode. Les fonctionnaires, un reportage de Pauline Mocor, Pascal Pascariello et Olivier Minot, réalisé par Cécile Lafont. Merci au lycée Fourier d'Auxerre, à Élise Topenot, aux surveillants et aux élèves, à l'hôpital à Christine et Francis et au TGI, à Nasser Edjozi, à Xavier Tabareux, le procureur de la République, et à Isabelle Gors, président du tribunal de grande instance de Marseille. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et Jeanne Boézek, c'est notre stagiaire.